VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
India, d'accord, 13h à Yaoundé, bienvenue à notre journal. On commence par l'actualité aux États-Unis. Le président Barack Obama se rendra à Orlando jeudi pour un hommage aux victimes de l'attaque perpétrée par Omar Mateen, qui a tué dimanche 49 personnes dans une boîte de nuit homosexuelle en vogue de cette grande ville de Floride. Ce déplacement, a précisé la Maison-Blanche, est destiné à rendre hommage aux familles des victimes et montrer sa solidarité avec la communauté. Le massacre de dimanche, le pire de l'histoire des États-Unis, est maintenant au centre du débat dans la campagne pour la présidentielle de novembre. Le républicain Donald Trump et la démocrate Hillary Clinton ont tous les deux parlé de la tragédie hier. Jean-Roger Bion.
Parlant dans le New Hampshire, M. Trump a semblé offrir une nouvelle version de son plan visant à interdire temporairement l'entrée des musulmans non américains aux États-Unis.
When I'm elected, I will suspend immigration.
Quand je serai élu, je suspendrai l'immigration en provenance de régions du monde ayant un passé avéré de terrorisme contre les États-Unis, l'Europe ou nos alliés, s'était crié Donald Trump. Il s'en est aussitôt pris au président Barack Obama et à son ancienne secrétaire d'État Hillary Clinton pour des politiques qui, selon Trump, n'ont fait que rendre les États-Unis vulnérables à des attaques.
Clinton
veut permettre à des terroristes islamistes radicaux d'envahir notre pays. Ils réduisent à l'esclavage les femmes et assassinent les homosexuels. Je ne les veux pas dans notre pays. Pour sa part, Mme Clinton a, dans un discours à Cleveland, lancé un appel à l'unité après la fusillade à Orlando.
This is a moment.
L'heure est à l'unité pour tous les Américains, quel que soit le nombre de fois où nous endurons des attaques comme celle-ci, l'horreur ne disparaîtra jamais. La candidate démocrate a également préconisé la prise de mesures supplémentaires de contrôle des armes. Elle a promis que la question de ce que l'on appelle les loups solitaires serait une priorité pour elle en cas d'élection à la Maison-Blanche. Et elle a semblé s'insurger contre la proposition de Donald Trump sur l'interdiction de l'entrée des musulmans aux États-Unis. Donc, nous devrions intensifier les contacts dans ces communautés plutôt que d'en faire des boucs émissaires ou de les isoler. Il est clair que la proposition initiale de Trump sur les musulmans défraie de nouveau la chronique, ressuscitant les craintes de certains républicains qui ne veulent pas que le candidat lui-même devienne facteur de division en novembre. De récents sondages donnent un grand avantage à Hillary Clinton quand il s'agit de la politique étrangère, mais certains donnent un léger avantage à Donald Trump quant à la question de savoir qui sera plus dur face à la menace posée par le groupe État islamique.
Merci Jean-Roger Bion. L'Afrique maintenant au Sénégal, nouvelle étape dans la partie de bras de fer entre syndicats de l'enseignement et le gouvernement. Des familles religieuses ont réussi à convaincre les enseignants grévistes à lâcher du lest. Les détails avec notre correspondante à Dakar, Sokhna Natambaye.
Après plusieurs mois de grève, les syndicats d'enseignants ont décidé de suspendre leur mot d'ordre. C'est à la suite d'une médiation menée dans les deux cités religieuses, Touba et Tiwawen. Marie Sibifaï, porte-parole du ministère de l'Éducation nationale.
Le gouvernement a toujours marqué sa disponibilité à dialoguer avec l'ensemble des acteurs.
Du côté des élèves, c'est le soulagement, surtout à l'approche des examens de fin d'année. Ils pourront enfin avoir leurs notes.
Je suis rassuré parce qu'on n'a pas pu, on savait pas tout ce qu'on avait acquis. Durant tout le semestre, depuis le début de l'année.
On est content qu'on puisse enfin savoir ce qu'on a fait pour savoir où on se trouve dans nos notes.
Cette médiation plutôt réussie des chefs religieux laisse un goût amer aux organes chargés de faciliter le dialogue, comme le Haut Conseil du Dialogue Social ou encore le médiateur de la République. Ils n'ont rien pu faire pendant des mois malgré plusieurs rencontres. À noter également que les syndicalistes ne veulent rien lâcher de leurs différents points de revendication, surtout ceux relatifs aux indemnités. Sokhna Natambaye, Dakar, VOA Afrique.
En Côte d'Ivoire, la défense de Simone Gbagbo, l'ex-première dame, a obtenu lundi le report au 20 juin du procès de Madame Gbagbo. Cette dernière est jugée depuis le 31 mai à Abidjan pour crimes contre des prisonniers de guerre et crimes contre l'humanité.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
La lutte contre Boko Haram maintenant, les forces armées du Cameroun, du Nigeria et du Bénin organisent une offensive dans la région du lac Tchad et la forêt de Sambisa, où se trouvent les dernières bases du groupe djihadiste nigérian, pendant que le Niger et le Tchad, de leur côté, annoncent une attaque contre les combattants de la secte au Niger. Il s'agit là d'une réponse aux incursions des djihadistes nigérians qui ont coûté la vie ce mois-ci à 26 militaires en territoire nigérien. Le compte-rendu de Moki Edwin Kinzeka à Yaoundé, au Cameroun.
Le colonel Didier Badjek, porte-parole des forces armées camerounaises, explique qu'après leur attaque au Niger, Boko Haram a continué son terrorisme dans le lac Tchad et les forêts de Sambisa.
Je veux vous dire qu'à cet endroit, il ne se passe pas d'heure sans que cette zone ne soit alimentée en feu nourri. Et au moment où nous nous trouvions, il y a une rafale qui est venue du côté d'en face. Et rafale à laquelle nous avons répondu énergiquement jusqu'à épuisement de toute riposte.
Le général Jacob Kodje, l'un des commandants des troupes camerounaises contre Boko Haram, explique leur stratégie dans cette nouvelle attaque dans laquelle plus de 1000 combattants sont impliqués.
This line of defense is the infantry.
Il dit que les militaires sont déployés à partir de Mogodé jusqu'à Zelevet au Cameroun et dans la zone du lac Tchad.
From Zelevet till Lake Tchad, it is more than 400 kilometers.
Selon lui, leur stratégie consiste à empêcher tout renforcement par les terroristes à partir de Sambisa. Cette offensive est une réponse aux dernières attaques de Boko Haram dans la ville de Bosso au Niger. Attaque dans laquelle 26 soldats ont été tués. Le Niger a également annoncé la mort de 55 terroristes et l'Organisation internationale des Nations unies annonce 55 000 déplacés. Après cet incident, le président tchadien Idriss Déby Itno a décidé de déployer 2 000 militaires au Niger. Moki Edwin Kinzeka pour VOA Afrique, Yaoundé.
Au Congo-Brazzaville, le général Jean-Marie Michel Mokoko, candidat malheureux à la présidentielle du 20 mars, est convoqué aujourd'hui par la Direction générale du territoire, la DSGC, a assigné à résidence. L'officier supérieur arrivé en troisième position le 20 mars, selon les résultats officiels, conteste la réélection du chef de l'État, Denis Sassou Nguesso. Il avait déjà été convoqué par la DGST, en pleine campagne présidentielle après la diffusion d'une vieille vidéo le montrant en train de discuter d'une apparente tentative de coup d'État. Bien qu'il soit loin d'être rassuré concernant l'audience prévue ce mardi, le général Mokoko a confirmé à VOA Afrique qu'il va répondre à la convocation. On l'écoute au micro d'Éric Manirakiza.
Je vais y aller, puisque de toutes les façons, il n'a jamais été dans mes intentions de me soustraire à l'action de justice. Si les autorités judiciaires pensaient que j'avais à être interpellé par la justice, bon, il n'a jamais été dans mes intentions de me soustraire à quelque action de la justice que ce soit. Donc je me rendrai bien à cette convocation.
Et vous n'en craignez pas d'être arrêté ?
Et écoutez, dans ce pays, tout est possible. Dans ce pays, tout est possible. Et quand vous voyez depuis le 9 février jusqu'à présent ce à quoi j'ai été soumis, bon, je ne serai plus étonné par quoi que ce soit. Hein, ça fait quand même plus de 70 jours. Je suis assigné à résidence sans que cela ne m'ait été notifié.
Le général Jean-Marie Michel Mokoko au Congo-Brazzaville. Corne de l'Afrique, maintenant, l'Éthiopie et l'Érythrée s'accusent mutuellement d'avoir déclenché à leurs frontières communes des combats qui ont fait un nombre important de victimes. Addis Abeba a dit à Asmara aujourd'hui que l'avènement ou non d'une guerre totale entre les deux voisins dépendrait de l'attitude des autorités érythréennes. Miley Segel.
Les combats ont commencé dimanche et semblaient s'être calmés lundi en fin d'après-midi. Cette fois-ci, ils ont été d'une ampleur supérieure à ceux observés ces dernières années. L'Érythrée a été la première à accuser son voisin d'ouvrir le feu dimanche sur le front de Tsorana, une zone litigieuse entre les deux pays. L'Éthiopie a riposté, disant que les forces érythréennes ont tiré des obus, notamment sur des ambulances civiles. Le porte-parole du gouvernement éthiopien, Getachew Reda, a affirmé que les combats ont fait un nombre important de victimes des deux côtés, mais plus dans le camp érythréen. Un des sujets de contentieux entre les deux pays concerne la ville de Badamé, attribuée à l'Érythrée par une commission de délimitation des frontières soutenue par les Nations Unies, mais que l'Éthiopie continue d'occuper. L'Érythrée a obtenu son indépendance de l'Éthiopie en 1991. Depuis le conflit de 1998-2000, une guerre pour des miettes de terre. Les deux voisins s'accusent mutuellement d'attaques et de soutien à des rebelles.
Et pour terminer en France, le président français François Hollande a affirmé aujourd'hui que le meurtre d'un policier et de sa compagne en région parisienne était un acte incontestablement terroriste. L'auteur de l'agression meurtrière, revendiqué par le groupe État islamique, était fiché par la police pour radicalisation. Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.